Et mon invité du jour aujourd'hui, c'est le maire de Lannion, Paul Le Bihan. Bonjour monsieur Le Bihan.
Bonjour.
Et merci d'être sur Millennium. Je vous souhaite une bonne année, hein, au nom de toute l'équipe de la radio.
Bonne année à vous tous et à tous les auditeurs.
Alors,
j'espère que 2021 ira mieux que 2020.
Ça c'est sûr, on espère tous. Alors beaucoup de sujets, hein, que l'on va évoquer aujourd'hui, mais avant toute chose, est-ce qu'on peut faire le bilan de cette année 2020? Une année qui a été compliquée, on l'a vu aussi avec les messages mis à Lannion sur les panneaux.
Alors c'est une année 2020 qui a été très particulière, parce que ça fait déjà presque un an qu'on a été réélu, plutôt au mois de mars, là,
oui.
Que pendant quelques mois il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'était de gérer au jour le jour la crise sanitaire. Gérer au jour le jour, ça veut dire tenir compte de protocoles qui changeaient pratiquement d'une semaine à l'autre, accueillir des enfants, ne pas les accueillir, ouvrir les salles sportives, les refermer, enfin j'en passe, c'est oui. Meilleur. Et puis quand même, les mots importants, gérer la crise et la pandémie dans nos EHPAD, puisqu'on a quand même eu, sur l'EHPAD Saint-Anne notamment, un mois d'avril très très dur. Très très dur, avec à un moment donné un décès par jour, hein, pendant toute la première quinzaine.
Ouais.
Et puis donc du personnel là, vraiment épuisé, qu'il a fallu soutenir, hein, grâce à d'autres services de la ville, apporter du renfort, mais vraiment peut tirer un coup de chapeau à tout le personnel qui est intervenu dans cet EHPAD là. L'autre à Ernotte était plus simple, parce qu'il n'y a pas eu de cas.
De cas, ouais.
Même s'il y a quand même tous les protocoles à gérer. Mais sur Sainte-Anne, effectivement, un épuisement, et puis à la fois moral et physique. Parce que voir des personnes être malades ou décédées dans ces conditions-là, ça n'est pas toujours facile non plus. Donc on a dû mettre un peu un soutien psychologique, hein, qui était quand même nécessaire, quoi. Donc effectivement, une année très compliquée, quoi.
Alors,
et on n'est pas encore sorti forcément de tout.
Non, voilà, ouais. Alors, c'était une année d'élection. Vous avez été élu d'ailleurs dès le premier tour, alors qu'il y avait beaucoup de listes. Est-ce que vous vous y attendiez comme ça, que ça soit aussi facile?
Disons que c'était des choses qu'on avait envisagées.
D'accord.
Voilà, parce que voilà, on avait une liste d'Union, et bon, sachant quand même un peu l'historique et la sociologie de Lannion, c'était des choses qui étaient envisageables. On est passé à 52, on aurait pu faire que 48 au premier tour, hein, je veux dire. Après, c'est des choses qui, avec un résultat quasiment identique, il aurait peut-être fallu avoir un deuxième tour. Bon, en tout cas, on est très content d'avoir pu passer ce premier tour, et surtout de ne pas avoir besoin de remettre la machine en marche pour des élections au mois de juin, quoi.
Ouais.
Au mois de mai, comme certains ont dû le faire, quoi.
Alors avant de parler des projets 2021, on va parler aussi du centre Covid, hein, qui est installé aux Ursulines. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est décidé? Vous avez été le visiter, je suppose?
Oui, oui. En fait, bon, alors ça s'est monté rapidement, hein, en une semaine. J'ai été contacté par la directrice de l'ARS Côte d'Armor, pour me demander une salle, en fait. Hein. Il s'est trouvé que les Ursulines correspondaient parfaitement à ce qui était demandé. Hein. C'est relativement vaste, il y a un grand parking à côté, l'accessibilité, elle est facile, parce que même s'il y a quelques marches, hein, à un endroit, faut bien être conscient qu'il y a une rampe qui permet d'accéder à la salle des Ursulines sans passer par les marches. Hein. Donc
ouais.
Pour les personnes à mobilité réduite, c'était faisable. Et puis, il n'y a pas d'activité dans la salle depuis maintenant quelques semaines. Donc voilà, ça s'est fait rapidement. Je pense qu'il était important quand même que sur une ville comme Lannion, il puisse y avoir ce centre-là. Donc qui aujourd'hui est destiné aux 100 000 habitants de Lannion-Trieure Communauté. Donc prioritairement d'abord les personnes les plus âgées, hein, plus de 75 ans. Mais ça correspond en fait à, je crois que c'est ça en France, hein, c'est un centre pour 100 000 habitants qui a été demandé. Donc j'espère que lorsqu'on va vacciner plus de monde, il y aura aussi d'autres centres dans d'autres communes, hein, de l'agglomération, puisque un seul centre, on arrive aujourd'hui à 120 ou 140 personnes vaccinées par jour.
D'accord.
S'il faut en faire 100 000,
on n'y est pas encore.
Tout le monde ne viendra pas, même à 50 ou 60 000, il faudra un certain temps, quoi. Donc j'espère qu'il y aura d'autres centres ouverts sur d'autres communes de l'agglo. La vraie question est aujourd'hui l'approvisionnement
en
vaccin. Voilà, donc ça monte, hein. On a commencé à 100 par jour, puis après c'était 120, et puis on doit arriver à 140. Aujourd'hui, on a ouvert une autre ligne avec un médecin supplémentaire, hein, depuis début de cette semaine-ci. Donc voilà, ça monte en puissance, mais voilà, la salle limite, j'ai envie de dire, c'est le nombre de vaccins, quoi.
C'est ça.
Et la disposition de la salle elle est prévue pour pouvoir rajouter des lignes de vaccination supplémentaires, quoi.
Et les procédures sont quand même assez compliquées pour les personnes âgées, parce qu'il y a des délais d'attente importants aujourd'hui.
Alors nous n'en sommes pas responsables du tout.
Non, ben non, bien sûr.
Ça passe par les plateformes Keldoc et puis les numéros, là. Donc effectivement, il y a des difficultés. Ça semble être en voie quand même de se régler, hein, d'après ce que j'ai pu entendre. Il y a pas mal de personnes qui ont réussi quand même à trouver des rendez-vous pour les semaines à venir. La seule limite, c'est encore une fois, c'est le vaccin, hein, puisque les personnes qui ont été vaccinées la semaine dernière ou cette semaine doivent aussi avoir la deuxième dose en 3 semaines ou 4 semaines. Donc effectivement, si c'est plein pour les 3 premières semaines, il faut aussi anticiper et dire que les semaines suivantes sont occupées par l'injection de la deuxième dose, quoi.
Ouais.
Donc voilà, donc ça ramène forcément après au mois de mars. C'est effectivement un peu compliqué, donc on essaye d'orienter les personnes qui auraient des difficultés à passer par les sites internet ou bien par le téléphone. On essaye de les orienter avec les services de la ville, avec du CCS, voilà, pour faciliter pour les personnes qui sont en difficulté devant ces moyens-là.
Ouais. Alors, autre sujet sensible de 2020, et on en a parlé dans tous les médias, c'est bien sûr Nokia. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Alors, on a vu que Arnaud Montebourg est venu lundi à Lannion. Vous ne l'avez pas rencontré. C'était pas pour lui. Pour vous, c'est pas sa place de venir actuellement?
Alors, je l'ai eu à téléphone. Moi, j'ai considéré qu'on était là dans un contexte de campagne préélectorale.
D'accord.
Parce qu'il y a le régional bientôt.
Oui.
Et puis donc, Monsieur Montebourg, Monsieur Le Fur, Monsieur Lélec, voilà, on était dans un contexte préélectoral, moi-même étant directement un soutien, hein, du président de la région, Loïc Chesnais-Girard, président actuel, et j'espère qu'il sera réélu. Voilà, je voulais pas non plus aller être
d'accord, ouais.
Faire paraître comme un soutien à d'autres personnes qui ne sont pas forcément sur la ligne, et sachant qu'avec le président de l'agglomération, avec Loïc Chesnais-Girard, avec les services d'Anticipa, le député, il a dit tout cela, il y a quand même eu du travail de fait. Donc voilà.
Le dossier avance.
Le dossier avance, c'est jamais forcément satisfaisant, hein, puisqu'il y a toujours des suppressions d'emplois qui sont nettes pour l'instant. Hein, et les syndicats ont bien fait de le rappeler, on n'a pas trouvé de solution. Donc il y a encore un coup de pression à mettre sur Nokia, notamment sur les aspects cyber, hein, puisqu'il y a eu des promesses de fait sur 97 emplois qui ne sont pas à ce jour concrétisées, enfin, du moins qui n'étaient pas vendredi dernier. Donc ça, c'est un coup de pression à remettre là-dessus. Donc on va rediscuter effectivement avec Nokia, hein, sur la concrétisation de ces postes-là, quoi.
D'accord.
Ah. Par contre, ça a avancé effectivement avec les emplois à Bicom, avec les emplois sur un certain nombre d'entreprises,
ouais,
actées aujourd'hui ou pas encore actées, mais qui vont l'être dans les semaines qui viennent. Donc ça quand même avance, hein, ça avance quand même, mais il faut s'assurer que tout le monde puisse trouver une solution qui convienne, quoi.
Alors, on va parler des projets pour 2021. Il y a bien sûr l'allée verte qui fait beaucoup parler aujourd'hui. Les travaux vont bientôt commencer. Quel bilan vous tirez de cette période de test?
Alors, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Le test qui a été fait consistait principalement quand même à vérifier des rayons de courbure, notamment sur le carrefour entre l'allée verte et puis la rue Yann Perron,
ouais,
sur l'étau qui est en haut de la rue Ernest Renan, vérifier quelle était la meilleure priorité, hein, sens montant ou sens descendant, habituer les gens à avoir un couloir de circulation qui n'est plus sur 3 voies, mais qui est réduit à 2.
Mm-hmm.
Donc voilà, c'est ça le but du test. Hein. Le but du test n'était pas de vérifier le nombre de places de stationnement, ni de vérifier que d'autres éléments, quoi.
Voilà, oui.
On était bien sur vérifier que les rayons de courbure permettraient effectivement à des véhicules ou des camionnettes de livraison de pouvoir passer et de pouvoir se croiser, notamment sur ces carrefours-là, quoi. Voilà, donc c'est bien ça le but du test. Donc les travaux, effectivement, vont commencer à la mi-février.
Mm-hmm.
Donc on va communiquer dès qu'on l'aura, parce que les entreprises ont été choisies là, courant janvier, donc à elles aussi de planifier, parce que on ne pouvait pas communiquer sur un planning de travaux avant d'avoir changé les entreprises, parce que toutes les entreprises ne fonctionnent pas forcément de la même façon.
Ouais.
Voilà, donc là, c'est le choix est fait. Donc la semaine prochaine, il y aura une communication sur le début des travaux, hein, sachant que ça part du rond-point de la Poste d'abord.
Oui.
Et puis donc, on va indiquer les sens de circulation qui seront maintenus, de quelle date à quelle date, et puis quand est-ce qu'il y aura des interdictions totales, parce qu'à un moment donné, il y en aura forcément. Hein, lorsqu'on arrivera en haut de la rue Ernest Renan, on ne pourra pas avoir à la fois des travaux et puis un sens de circulation, là, il n'y a plus la place. Donc, il y aura tout ça va être communiqué dès la semaine prochaine, quoi.
D'accord. Et du coup, pour les commerces qui sont impactés, on va penser aux fleuristes, tout ça, il y a des solutions à envisager pour les déplacer, peut-être le temps des travaux.
Alors, il y a eu des discussions avec le fleuriste, effectivement. Là, je ne sais plus où est-ce qu'on en est, hein, parce qu'il y a aussi son intérêt individuel à voir. On lui a fait des propositions. Hein, je ne sais pas ce qu'il en est
d'accord.
Aujourd'hui, s'il a été retenu, enfin, notamment dans les Halles ou ailleurs. Il y avait des solutions de proposer. Maintenant, bon, faut distinguer un peu l'aspect un peu général de l'aspect plus individuel, hein, du commerce en lui-même, quoi.
Ouais. Alors ce matin, dans les journaux, j'ai vu un collectif qui est baptisé Lannion veut un centre-ville vivant, alors qui est composé apparemment de commerçants et de clients. Ils ont lancé une pétition pour appuyer donc trois demandes d'urgence, dont le report des travaux, hein, de l'allée verte. Est-ce que vous les avez rencontrés? Est-ce que c'est le président de Lannion Cœur de Ville aussi qui est à la tête de tout ça, Philippe Latronche?
Je ne pense pas que ce soit Philippe Latronche qui soit à la tête de cela. D'abord, je rencontre encore ce soir Philippe Latronche, justement, sur l'allée verte, pour détailler là ce que je suis en train de vous dire sur l'avancement des travaux et
oui.
Le calendrier. Donc, on le rencontre ce soir. Je ne pense pas que ce soit lui qui soit à la tête de tout ça. Ce qui est clair, c'est que les travaux vont commencer, comme je vous le disais, à la mi-mars. Ça, c'est clair.
Non, ça, c'est clair. C'est primordial. Ça sera fait.
Ce sera fait. Le collectif dit qu'il veut un centre ville vivant, nous aussi, et c'est bien pour ça. Encore une fois, je pense qu'il faut remettre tout ça dans son contexte. Pourquoi ce projet d'allée verte il est mis en place? C'est d'une part pour en faire une rue urbaine, une voie urbaine, et non plus seulement une voie de transit.
Mm-hmm.
Les gens peuvent rouler vite. Si des camions passent par là en venant de Tréguier pour aller à Morlaix ou dans l'autre sens, eh ben, vaut mieux qu'ils passent par d'autres voies. Il y a le boulevard Lafayette, il y a des rocades, enfin voilà.
Mm-hmm.
Vaut mieux passer par ailleurs que par le transit. Donc c'est bien pour en faire une voie de centre-ville et une voie urbaine.
D'accord.
Faciliter les liaisons piétonnes, vélos, l'accessibilité. Parce qu'on parle souvent de l'étau de la rue Ernest Renan. Aujourd'hui, il n'y a pas de trottoir à cet endroit-là.
Ouais.
Donc, si on veut faire des trottoirs, forcément, il faut qu'il y ait une priorité dans un sens ou dans un autre. On ne peut pas pousser les murs, quoi. Hein, si
ouais.
On avait pu démonter les maisons, je ne suis pas certain que les propriétaires seraient d'accord. Mais
c'est
un fait. C'est un fait, c'est comme ça. Et comme les trottoirs aujourd'hui, lorsqu'on refait des trottoirs, les normes imposent une largeur d'1,50 m, je crois, minimum, pour pouvoir passer avec un fauteuil roulant, avec une poussette, une mère de famille qui a une poussette avec elle et un bébé ou un enfant qui marche, qui elle donne la main. C'est indispensable d'avoir ces largeurs-là. Donc, on peut pas faire autrement que d'avoir ce goulot.
Hein,
c'est comme ça, voilà. Donc, il faut le faire. Aujourd'hui, la rue Ernest Renan n'a pas beaucoup de commerce, hein, faut être clair. Il y a le fleuriste, il y a le restaurant L'Anthocyane, et puis il y a quelques
commerçants, ouais.
Mais il y a beaucoup de cellules vides dans cette rue-là. Donc, l'objectif, c'est bien effectivement de mettre de la visibilité sur ces cellules-là, donc en supprimant quelques places de stationnement, et au total, ça fait une dizaine de places hein, qui sont supprimées seulement, parce que c'est aussi des remontées qui ont été faites par les commerçants qui étaient là, ou les propriétaires de ces commerces, disant on ne nous voit pas parce qu'il y a des véhicules stationnés devant, donc du coup, lorsqu'un commerce s'installe, eh ben, il n'est pas visible, et puis ça marche pas bien.
Ouais.
Donc l'idée, c'est bien d'avoir une rue de centre-ville, hein, on considère que ce n'est plus une voie de transit, et de faciliter la liaison aussi entre le centre-ville historique et puis les hauts de Pénarsang, le Stanco, tout cela, pour que les gens prennent l'habitude d'y venir, hein, et puis de pouvoir se déplacer tranquillement, sachant que le stationnement, il y a encore une fois ces 10 places, une dizaine de places qui sont supprimées dans la rue. Il y a des places à mobilité réduite qui sont créées. Mmh. Et puis, il y a des parkings pas très loin, quoi. Le Stanko, il n'est pas forcément très loin. Ouais. Le parking d'Augsbourg non plus. Les Ursulines non plus. Le quai d'Aiguillon, pour l'instant, non plus. Donc voilà, il y a des possibilités de stationnement ailleurs que dans la rue. C'est pas 10 places de moins dans cette rue-là qui vont mettre à mal le centre-ville de Lannion, quoi. Voilà.
Alors justement, quand on parle de stationnement, il y a un autre sujet sensible, c'est la vidéo Lannion 2030. Et le nouveau quai d'Aiguillon sans place de parking, c'est vraiment une possibilité de supprimer toutes les places de parking. Le but, c'est de mettre en valeur le Léguerre.
Le but, c'est de mettre en valeur le Léguerre, d'y faire sur cet emplacement-là une liaison entre la rive droite et la rive gauche. Mmh. Dans tous les études ou les diagnostics qui ont été portés depuis maintenant quelques années sur l'année 2030, c'est de dire aujourd'hui, ce parking d'Aiguillon, ce n'est qu'un parking. Et on voit que ça quand on vient sur l'Agnon et on s'imagine même pas qu'il y a un centre-ville ailleurs. Voilà.
D'accord.
Ou qu'il y a un centre historique, du moins pour le touriste. Donc l'idée, c'est de faire un lieu d'animation. Le stationnement, on va voir. C'est une proposition qui a été faite, mais c'est pas...
Il n'y a rien de sûr pour l'instant.
Il n'y a rien d'acté, il n'y a rien.
D'accord.
Et là, on a... une différence entre ce sujet-là et le sujet de l'allée verte.
Verte.
Sur le sujet de l'allée verte, c'est commencé depuis 2018. Hein, les services de la ville, les élus ont rencontré pratiquement tous les commerçants un par un, les riverains aussi. Le projet, il a été bâti depuis maintenant 2-3 ans.
Ouais.
Donc on arrive à la concrétisation. Sur le quai d'Aiguillon, enfin sur les rives du Léguerre, en sens large, hein, la vidéo fait état de propositions, de choses à débattre. Il n'y a rien d'acté et la concertation démarre. Là.
D'accord.
Démarre, voilà. Hein. Alors que sur l'allée verte, c'est fini.
Sur l'allée verte, c'est terminé, mais par contre, sur le quai,
ça démarre.
Ça démarre pour,
voilà,
les discussions. Voilà. On va parler aussi d'une campagne que vous mettez en place, là, Stop au stationnement gênant. Vous avez décidé de sévir un petit peu sur la commune ?
Alors, l'idée n'est pas forcément de sévir. L'idée, c'est de dire et de sensibiliser tout le monde en disant attention, on fait de plus en plus souvent maintenant des voies cyclables. On essaye de, je parlais de trottoirs tout à l'heure, de faire des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite. On fait cela. C'est pas pour que les véhicules se garent dessus, quoi.
Ouais.
On a des exemples de trottoirs qui ont été faits suffisamment larges pour tout le monde. Et du coup, certains automobilistes considèrent que comme c'est assez large, on peut se garer sur le trottoir. Voilà. Bah, l'idée, c'est de dire, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. On a fait. c'est des exemples qui ont été remontés par des gens, par Trégor Bicyclette, bien sûr, par Trégor Piéton, je ne sais plus comment s'appelle la nouvelle association Trégor Piéton, d'autres, en disant, c'est pas normal qu'un véhicule se stationne sur un trottoir ou sur une bande ou une piste cyclable. Voilà. Donc on veut resensibiliser tout le monde en disant que le code de la route l'interdit.
Ouais.
Et donc s'il faut verbaliser, on verbalisera. Donc aujourd'hui, on va lancer une campagne de sensibilisation forte, large, par des affiches, par des exemples,
ouais,
concrets où on voit un véhicule stationné là où il faudrait pas. Donc on va le faire et puis notre police municipale, à un moment donné, lorsqu'elle sera témoin de cela ou lorsqu'elle sera appelée par des gens qui pour le signaler, elle verbalisera. Elle peut déjà le faire aujourd'hui. Mais l'idée, c'est bien de dire, attention, aujourd'hui, vous êtes avec votre voiture, demain, vous prenez votre vélo et après-demain, vous allez à pied. Donc, le comportement que vous avez avec lorsque vous conduisez, tenez-y compte aussi lorsque vous êtes piéton, quoi,
ouais,
ou l'inverse, quoi.
Hein. Ouais.
On est tous, à un moment donné, piétons ou automobilistes ou cyclistes, hein, selon sa forme ou pas. On est, voilà. Donc, il faut bien sensibiliser. Il n'y a pas de... Et je l'ai rappelé souvent en conseil municipal ou ailleurs, il n'y a pas de consigne de verbalisation. Mais par contre, il faut verbaliser, effectivement, lorsque c'est sur un stationnement très, très gênant, quoi.
Justement, on parlait des vélos. Est-ce que le but, c'est d'avoir de plus en plus de pistes cyclables à Lannion, notamment pour les vélos électriques, puisque Lannion, ça monte quand même.
Alors, on a un schéma directeur vélo qui est en cours de finalisation sur la ville.
Mm-hmm.
Il y a un schéma au niveau Agglo. Au niveau de l'eau aussi, pour faire en sorte que il y ait des continuités entre ce qui est élaboré par chacune des communes dans son coin, j'ai envie de dire. Il faut qu'il y ait une continuité et une cohérence. Au niveau de la ville, on l'a constaté, hein, les vélos, la vente de vélos ou l'usage du vélo a explosé depuis quelques temps maintenant, avec peut-être aussi la hausse du prix du carburant, avec l'essor des vélos électriques. Donc il y a de plus en plus de vélos. Et donc l'idée, c'est effectivement de développer, du moins de permettre aux gens qui ont envie de faire du vélo de pouvoir le faire.
Ouais.
C'est pas imposer le vélo partout, mais c'est permettre à ceux qui ont envie de le faire de le faire en toute sécurité. On va là dès 2021, il y a une voie qui va être faite entre Buillien, plutôt un aménagement vélo entre Buillien et le collège Coppens, hein, par la contre-allée, et puis après par une emprise sur les terrains du conseil départemental qui était prévu pour faire la 4 voies, et en fait aujourd'hui il n'y en a que 2, donc il y a de la place pour du moins pour au moins pour 10 ans d'utiliser cet espace-là pour en faire un espace vélo.
Ouais.
Arrivé au collège Coppens, il y a des aménagements qui ont déjà été faits au niveau du rond-point et puis sur la rue Trier, donc on va continuer dans cette voie-là. La rue de l'aérodrome va être bientôt terminé, hein, la rue Georges Pompidou, là, pour aller du centre vers là-haut, donc ça va bientôt être terminé. Donc l'idée, c'est bien, effectivement, de multiplier les possibilités d'usage du vélo, en toute sécurité.
Ouais. Alors, on a parlé collège Coppens, mais on va parler aussi du collège Charles Le Goffic, qui a accueilli ses premiers élèves en septembre.
Oui.
Vous avez eu un retour, comment ça s'est passé? Est-ce que les travaux sont terminés?
Les travaux sont terminés, alors il reste peut-être, c'est un chantier fait par le conseil départemental, il reste peut-être des finitions ici ou là, ça, je pense que vu l'ampleur du chantier, tout pouvait pas forcément être fini pour la rentrée de septembre, donc il y a sans doute des finitions à faire. Moi je l'ai visité avec le président Alain Cadec à l'époque, quand il était encore président, avec le proviseur. C'est un beau site et c'est un espace magnifique. Et c'est surtout les conditions de travail, à mon avis, qui sont sans commune mesure avec ce qu'il y avait à voir, avec ce qu'il y avait avant. Quoi. Mmh. Et en plus, il y a une belle vue sur l'Agnon. Enfin voilà, il y a des choses magnifiques dans cet établissement. Nous sommes en train de terminer dans les mois qui viennent, je pense avant l'été, la place Saint-Yves, avec le réaménagement de cette place Saint-Yves, qui permettra aussi de finaliser complètement les aménagements du boulevard d'Armor, parce qu'aujourd'hui il y a encore des choses qui sont plus ou moins provisoires, ou du moins des marquages qui n'ont pas été totalement finalisés tant que la place Saint-Yves n'est pas finie, quoi.
Mais d'accord.
Après, on pourra effectivement finaliser tout ça avec les cheminements piétons, vélos et puis véhicules, quoi.
Alors j'avais encore beaucoup de sujets, mais on va aborder le dernier, c'est le budget participatif.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui va se mettre en place, là ?
Alors, ça se met en place, hein. On a fait un point hier là-dessus avec la presse. Donc l'idée, c'est on a sanctuarisé. C'est peut-être pas le bon mot, mais on a mis une ligne dans notre budget qui sera voté au mois de mars, une ligne budget participatif.
D'accord.
Donc l'idée, c'est de permettre à des habitants, individuels ou regroupés, ou en association, ou en collectif, ou des enseignants avec des enfants, de pouvoir présenter un projet d'intérêt général, bien sûr, sur des domaines qui sont de la compétence de la ville. Il ne s'agit pas effectivement d'avoir un projet qui dit on va mettre une navette de transport ou ceci, cela, parce que là, du coup, ce n'est pas la ville qui décide, c'est l'agglomération.
D'accord.
Donc, sur les compétences de la ville, d'avoir des projets d'aménagement, quels qu'ils soient, qui seront étudiés au vu d'un certain nombre de critères de recevabilité.
Ouais.
Du coup, donc on a mis 120 000 euros, ce qui permet d'avoir 4 projets de 30 000 euros max.
D'accord.
Sachant que le 30 000 euros, c'est le plafond pour un projet.
D'accord.
Donc il peut y avoir 8 projets ou 12 projets à 10 000 euros ou un mix, un projet à 30 000, un autre à 10 000. Enfin voilà, il peut y avoir tout ça. On a prévu 120 000 euros. Donc c'est une première année. On s'est basé sur ce qui s'est fait dans certaines villes de la même même catégorie que Lyon, voire à Brest.
D'accord.
Il y a des plateformes qui ont été construites par des gens un peu spécialistes là-dedans pour que tout le monde, tout un chacun puisse écrire son projet. Et puis après, il y a les modalités de vote qui seront aussi possibles par cette plateforme-là, vote électronique ou pas. Hein, je veux dire, c'est pas forcément réservé qu'aux gens qui savent utiliser les moyens informatiques, mais ça pourra se faire par papier et par vote électronique. Et puis c'est les citoyens qui choisiront quoi.
D'accord.
La ville fait l'étude de recevabilité des critères et des compétences, hein, tout cela. Les services techniques vont faire une étude de faisabilité technique, bien sûr, parce que
c'est pas parce
qu'un projet est présenté qu'il est forcément faisable. Et puis aussi financière, pour voir, finalement, j'ai dit, c'est 30 000 euros par projet max.
Bien sûr.
Et donc, voilà.
Donc c'est les habitants.
L'appel est lancé, les comités de quartier vont relayer tout cela, les associations, et puis on se donne le mois de, je crois que c'est jusqu'au 15 mars pour recueillir les dossiers. Après, il y a la faisabilité, et puis après, un vote courant avril ou juin, mai-juin. Quoi, voilà.
Donc pour déposer vos projets, hein, c'est sur jeparticipe.lagnon.bzh. Voilà,
tout à fait.
Ben,
c'était un engagement qu'on avait pris avec les conseils du quartier lorsqu'on les avait mis en place en disant voilà, on va y réfléchir. On a pris cet engagement dans la campagne électorale. Donc on fait cette première année 2020 T1, et on corrigera peut-être en 2022 et en 2023 si d'une part en fonction de la situation financière, hein, parce qu'aujourd'hui on a mis cette barre à 120 000 euros, ça peut être plus, ça peut être moins, on verra bien. Et puis on affinera aussi les critères si besoin, s'il y a des incompréhensions. Quoi.
Ouais. Eh ben merci beaucoup, monsieur Le Billon, d'avoir été sur Millennium pour nous parler de tous ces projets.
Merci.
À bientôt, au revoir.